J'ai parlé dans une vidéo précédente des problèmes quand on a un ou des parents narcissiques et les séquelles que cela laisse. Et là, je me suis décidé à aller un petit peu plus en profondeur avec l'un des deux parents. Pour l'instant, ça va être la mère. La vidéo sur le père, ce sera la prochaine. Et pour commencer, il va falloir faire un petit peu le portrait de la mère narcissique. Et on verra qu'il y a deux profils qui sont plus évidents que les autres. Alors, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas là, hein, les sept différents profils dont j'ai déjà parlé. Mais il va y avoir deux profils de mère narcissique qui vont revenir régulièrement dans les données et ils opèrent différemment. Comment ils opèrent et que faire, c'est ce que nous allons voir dans cet épisode du Psy chez vous. Bienvenue.
Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous.
Alors d'abord, et pour commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Cyril Malka, je suis psychologue cognitif et comportemental. Vous pouvez en savoir plus sur moi en allant faire une balade sur ma page principale, malka.fr. Et là, d'ailleurs, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi si vous en avez envie ou besoin. Maintenant, passons un petit peu à la mère narcissique. Alors, les deux profils les plus récurrents, ça va être la mère grandiose et la mère vulnérable. Voilà, je pense que je ne surprendrai personne en disant ça. Alors, la mère grandiose, elle vit son enfant comme un prolongement d'elle-même. Les réussites de l'enfant deviennent ses réussites à elle. Elle survalorise son enfant. Elle dit et elle croit sincèrement que son enfant est le plus exceptionnel que les autres, plus incroyable que les autres et qu'il mérite un traitement à part. Son affection, elle est conditionnel, très important. C'est-à-dire que l'enfant est traité chaleureusement quand il fait briller, quand il est bien et quand les choses vont bien, mais il est mis à distance quand il la dérange ou quand les choses ne vont pas aussi bien. Dans ce cas-là, la relation devient beaucoup plus froide, beaucoup plus conflictuelle dès que l'enfant cesse de servir son image. La mère vulnérable, elle va plutôt se poser en victime permanente. C'est l'enfant qui gère ses émotions. Elle va percevoir son enfant comme difficile, entre guillemets. Je veux dire, un enfant qui va avoir une saute d'humeur ordinaire, hein, comme les gamins maintenant peuvent en avoir, ou un refus d'obéir, là, ça devient la preuve que, à ses yeux, l'enfant a mauvais caractère. Elle va inverser les rôles, donc l'enfant doit consoler, l'enfant doit rassurer, l'enfant doit s'excuser, et l'enfant doit porter la charge émotionnelle, en fin de compte. Et le profil vulnérable, plus que le profil grandiose en fin de compte, a un impact important sur l'enfant. Alors, c'est pas que le profil grandiose n'en a pas, mais l'enfant va plus facilement aller dans une détresse, et ça va pouvoir être mesuré, hein, psychologiquement parlant, quand l'enfant est associé à une mère qui a un profil narcissique vulnérable. En gros, il est important pour vous d'identifier le profil de votre mère, alors, si bien entendu si vous avez eu une mère narcissique, parce que ça va changer la lecture de votre enfance en quelque sorte. Parce que si vous avez eu une mère plutôt portée sur le grandiose, elle vous aura plutôt utilisé comme trophée. Et si vous avez été en contact avec une mère vulnérable, elle vous aura plus utilisé comme soignant. Donc, en fin de compte, votre rôle peut être très différent dans la famille selon que ce soit l'une ou l'autre. Encore une fois, j'ai pas pris tous les profils parce que sans ça, on n'en finit pas, mais les deux profils principaux. Alors, bien entendu, dans ces familles, l'enfant n'existe pas pour lui-même. En gros, comme vous pouvez le voir, il occupe une fonction qui va être au service de la mère. Si c'est la mère donc qui est narcissique, l'enfant est instrumentalisé. Et le mécanisme qui est le plus documenté, hein, et d'ailleurs dont j'ai déjà parlé, c'est la désignation d'un bouc émissaire. L'enfant reçoit la responsabilité des tensions de la famille. Quand il y a quelque chose qui va mal, c'est de sa faute. Et en parallèle, un autre enfant peut être idéalisé, peut être exhibé comme la fierté de la mère. Ça va être la répartition donc de l'enfant favori ou l'enfant doré d'un côté et l'enfant coupable de l'autre. Et ces rôles ne sont pas toujours gravés, hein. C'est-à-dire que le même enfant peut passer de favori à coupable selon ce que la mère traverse au moment présent. Alors, Des fois, dans certaines familles, les rôles vont être fixes, mais dans d'autres, ils peuvent parfaitement bouger. En tout cas, l'enfant qui est donc instrumentalisé va apprendre très très tôt que ce que l'enfant ressent, ce qu'il ressent, ça compte pas. D'accord ? Ce qui compte, c'est l'usage que la mère fait de lui. Pour vous y retrouver, pour savoir exactement, pour essayer d'avoir une idée, posez-vous une question simple hein, sur votre enfance. Si, par exemple, vous faisiez quelque chose de bien ou vous rameniez une bonne note, bref, s'il se passait quelque chose de bien, est-ce que votre mère était fière de vous ou fière d'elle à travers vous? Si c'est la deuxième réponse, ça c'est un marqueur d'une forme d'instrumentalisation. Alors une des questions qui revient le plus souvent dans ce genre de situation, c'est le fait d'avoir grandi avec une mère narcissique, est-ce que ça fait de moi une personne narcissique? Alors il y a deux forces en quelque sorte qui vont répondre à cette question. Il va y avoir une force héréditaire qui est très forte et une force environnementale dont le principal moteur va être la survalorisation. Alors la survalorisation, ça n'a absolument rien à voir avec l'affection. Ce sont deux choses différentes qui vont fabriquer deux adultes différents ou qui vont influencer des adultes dans une direction différente. Il y a eu une étude longitudinale qui a suivi 565 enfants de 7 à 12 ans sur 4 vagues de 6 mois et les enfants survalorisés développent donc davantage de traits narcissiques avec le temps. Les enfants qui reçoivent de l'affection développent une estime de soi solide. Alors qu'est-ce que c'est que la survalorisation ? Alors la survalorisation, c'est quelque chose qui vous place au-dessus des autres. Votre mère vous répète que vous êtes plus exceptionnel que les autres enfants, que vous méritez un traitement à part, une éloge démesurée, totalement déconnectée du réel. Si vous faites un dessin tout à fait ordinaire, hein, c'est devenu le plus beau dessin que j'ai jamais vu. Une note plus ou moins moyenne, ça devient la preuve de votre génie. Et donc, pour vous, elle va exiger la première place, la meilleure part, le passage avant les autres, parce que ben vous le méritez plus que les autres enfants. Elle va vous exhiber, elle se vante de vous auprès des autres, elle vous présente comme un exemple que les autres enfants devraient suivre, etc., etc., etc. Ça, c'est la survalorisation. L'affection, c'est, elle va vous dire qu'elle vous aime et elle va vous le montrer par des gestes. Elle va s'intéresser à votre journée. Elle écoute vraiment la réponse que vous allez donner. Elle vous console lorsque vous échouez. Elle va pas transformer l'échec en une catastrophe, vous faire honte et tout et tout. Elle apprécie votre compagnie pour vous-même, pour le plaisir de vous avoir là à ses côtés. Elle va féliciter l'effort réel que vous avez fait à la hauteur de ce que vous avez fait sans le gonfler et sans le minimiser. Donc en gros, la grande différence, ça va être la survalorisation vous envoie un message qui est « tu es supérieur aux autres, tu mérites plus qu'eux » et elle installe une hiérarchie qui vous met tout en haut. L'affection, elle vous envoie un autre message. Tu comptes, tu as de la valeur, tu es digne d'être aimé. Et il y a besoin de personne en dessous ou au-dessus de vous de toute façon. Le premier message peut participer à fabriquer un adulte narcissique. Celui qui va passer sa vie à défendre sa place au-dessus des autres. Le second va fabriquer un adulte avec une estime de soi plus stable, celui qui n'a pas besoin d'écraser quelqu'un pour se sentir bien. Je parle plus en détail de ce genre de choses dans mon webinaire qui s'appelle « La fabrique des irresponsables » et que j'ai tenu maintenant, il doit y avoir 2 ans. À part ça, le narcissisme a une très forte composante héréditaire, hein, ça j'en parle également plus en avant dans ce fameux webinaire. Les études de jumeaux estiment l'héritabilité du narcissisme grandiose. Attention, seulement le narcissisme grandiose, autour de 59%, et selon les études, selon les mesures, elle se situe de l'ordre à 50-65%. Si on prend les autres formes, on peut avoir des chiffres un peu plus élevés. Mais on a remarqué que le narcissisme grandiose est plus héritable que le narcissisme vulnérable, pour une raison ou pour une autre. L'environnement familial, qui est commun aux frères ou sœurs, pèse vraiment très peu dans la balance. Ce qui compte, c'est la génétique et les expériences qui sont propres à chaque enfant. Donc, un enfant, dans ce cas-là, peut parfaitement devenir narcissique sans avoir été survalorisé. La survalorisation, c'est une voie. Le patrimoine génétique, c'en est donc une autre. Alors, une mère narcissique peut parfaitement donc fabriquer un enfant narcissique, mais elle peut aussi fabriquer certaines autres choses. Alors déjà, elle peut fabriquer un enfant narcissique au travers de la voie environnementale, avec la survalorisation, dans cette fameuse étude longitudinale, hein, le narcissisme du parent et la survalorisation étaient tout à fait liés. Et donc, la survalorisation prédisait le narcissisme de l'enfant, même en tenant compte du narcissisme du parent. À la voie génétique, donc. Alors, encore une fois, comment je sais que l'enfant survalorisé, en fin de compte, n'était pas génétiquement narcissique? Ça, on ne sait pas. Donc là, c'est déjà plus compliqué. Mais on suppose que ça peut avoir une influence. Et donc, la voie génétique, hein, c'est la disposition héritée. Un enfant peut développer des traits narcissiques sans avoir été survalorisé, hein, en étant tout simplement génétiquement prédisposé. Et dans la même fratrie, donc, ça peut donner des trajectoires très différentes. Vous allez avoir l'enfant survalorisé qui va cumuler la voie environnementale, vous allez avoir donc l'enfant héréditaire hein, qui va suivre, vous avez l'enfant rabaissé, l'enfant négligé, qui peut développer des traits narcissiques par la voie génétique ou basculer vers une estime de soi très mauvaise, très basse, sur laquelle il va falloir travailler le plus souvent avec l'aide de la thérapie. Alors maintenant, si vous repensez à votre mère, vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'elle vous a donné le sentiment d'être aimée ? Ou le sentiment d'être supérieur, ou est-ce que vous deviez être supérieur? Alors donc dans ce cas-là, le sentiment de supériorité, c'est le terrain des traits narcissiques. Est-ce que le manque d'affection ou la désignation comme coupable a été quelque chose auquel vous avez été habitué? Et là, dans ce cas-là, on est dans le terrain du doute de soi, de la basse estime, etc. Et puis donc, gardez en tête la part génétique, hein. Votre profil adulte n'est pas seulement le produit de la façon dont votre mère vous a traité. Si vous ne tirez pas les traits génétiques de votre mère, mais de votre père ou du facteur, dans ce cas-là, il y a quand même, enfin, votre mère n'est que pour la moitié des gènes, en gros. Donc, ça a peut-être absolument rien à voir. Après, régulièrement, lorsque je parle de relation avec une personne narcissique, on parle de rompre le lien, hein, du no-contact avec la personne narcissique. Et avec une mère narcissique, c'est problématique. C'est plus problématique que les autres liens, en fin de compte. Se détacher d'une mère narcissique, ça résiste beaucoup plus, en quelque sorte, que se détacher d'un ex, d'un collègue, d'un ami, etc. La première raison à ça, c'est le tabou. D'accord ? C'est ta mère. Ça ferme la discussion. L'entourage va vous pousser à pardonner, à comprendre, à reprendre contact. Mais écoute, c'est ta mère, elle aime ses enfants, elle t'aime, tu peux pas lui faire ça, blablabla. Deuxième raison, un petit peu liée à ça, ça va être la culpabilité. Parce que on se culpabilise toujours un peu de la laisser, surtout si c'est une narcissique vulnérable, bah, la pauvre, elle est malade, et un rien la déstabilise, etc. Donc déjà, on a cette culpabilité-là. Mais après, vous avez aussi le concept de se protéger d'une mère. Ça peut développer un sentiment de trahison que la même distance vis-à-vis d'un collègue, d'un ex, ou ce que vous voulez, ne va pas déclencher, tout simplement. Et puis, troisième raison, ça va être l'ancienneté. C'est le premier lien que vous avez eu en tant qu'enfant. Il a été installé, vous aviez même pas des mots pour le décrire. Vous avez appris cette relation dès votre plus jeune âge comme une normalité, comme une chose évidente. Donc, par différentes interviews et dans différentes études, les adultes qui ont été élevés par une mère narcissique ont une tendance à décrire cette emprise comme une forme de cage sans sortie et une voix intérieure qui continue de les juger très longtemps après le départ, s'ils ont fait le départ. Alors, c'est pour ça que c'est très important de savoir que, oui, vous ressentez de la culpabilité, en gros, c'est normal, et le fait que vous ressentez de la culpabilité à vous protéger, ça ne veut pas dire que vous avez tort, ça veut dire que c'est le résultat normal d'un lien qui a été construit sur une forme d'inversion des rôles à un moment donné dans votre développement. Alors, c'est bien joli tout ça, mais justement parce que ça peut être extrêmement difficile de s'en sortir, de couper les liens, machin, etc., le no-contact, c'est quasi impossible. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il va être important pour vous de repérer la réelle intention. D'accord ? Vous avez votre mère qui va réécrire les faits, qui va nier ce qu'elle a dit, qui va vous faire douter de votre propre mémoire. Elle vous promet quelque chose au téléphone et puis elle vous dit « Ah ben non, moi j'ai jamais dit ça ». Et après quelques épisodes, vous dites « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais plus qui a raison ». Et là, la parade à ça, c'est tout à fait matériel. C'est-à-dire, après un échange important, vous notez la date et le contenu. D'accord ? Privilégiez les messages écrits, les SMS, WhatsApp, Telegram, ce que vous voulez, plutôt que les appels, parce que les traces écrites, elles sont toujours plus de valeur que la version orale. Alors, attention, hein, c'est pas pour discuter avec elle, parce que ça servira à rien, mais c'est surtout pour vous recadrer, vous, pour vous dire, oui, bon, alors c'est pas moi qui suis totalement taré, c'est pas moi qui suis à côté de la plaque, ça a été vraiment dit, bon. Maintenant, je sais qu'elle est en train de faire de la réalitorsion, c'est bon, quoi. Après, vous avez cette fameuse méthode de la pierre jaune, dont j'ai déjà parlé, et le principe, c'est de donner des réponses minimales, factuelles, sans émotion, afin de ne pas être une source de réaction intéressante. En fin de compte, vous êtes comme un réservoir, hein, parce que quand vous réagissez, vous la remplissez, enfin, elle peut se remplir ou vous utilisez comme punching ball, etc. Et tant que vous répondez, en fin de compte, elle va venir vous chercher. Tant que vous mordez à l'appât, elle va essayer de vous appâter. Donc, en utilisant la technique de la pierre jaune, qui ressemble un petit peu à la pierre grise avec un petit peu plus de réponses. C'est une bonne méthode parce que vous répondez sans tomber dans le piège. Par exemple, si elle vous provoque, vous répondez à un truc du genre « bon, ben, je verrai ». Oui, c'est noté. Et puis c'est tout, vous ne vous justifiez pas, vous argumentez pas, vous entrez pas dans les discussions, etc. De toute façon, ça ne servira à rien. Après, vous avez cette méthode dite « BIF », en anglais, brief, informative, friendly, firm. C'est-à-dire bref, informatif, aimable et ferme. Donc en français, ça serait BIAF. Ouais, bon, ok. C'est une méthode qui est utilisée hein, pour les échanges écrits à haute probabilité de conflit. Par exemple, vous avez votre mère qui vous envoie un message qui est conçu pour vous faire réagir, pour vous faire vous justifier, ou pour parce qu'elle sait que vous risquez de contre-attaquer. Donc, vous mordez pas à l'hameçon, vous répondez au seul élément concret, sur un ton courtois, et sur les faits, et vous fermez. C'est donc, en fin de compte, une façon de faire la pierre jaune. C'est une méthode pour appliquer la pierre jaune. Par exemple, votre mère vous dit « tu m'appelles jamais, tu te fiches de moi, tu n'en as rien à faire si je suis malade, etc. etc. » Après tout ce que j'ai fait pour toi, ça c'est moi qui me suis saigné aux quatre veines pour que tu aies une bonne éducation et regarde maintenant, tu me laisses dans mon trou tout seul comme une chienne. Voilà, bel truc. La réponse bif, pierre jaune, ça va donc être « Merci pour ton message, maman. Je t'appelle dimanche à 18h, on parlera de vive voix, prends soin de toi. » Voilà. Trois lignes au lieu d'un pavé, c'est informatif. Il y a une seule information qui est neutre, l'appel de dimanche. C'est aimable, c'est un ton poli, hein, il n'y a pas de raison d'être mal poli ou d'être vexant, etc. C'est un ton poli, mais il n'y a pas d'excès de chaleur, vous n'êtes pas hypocrite. C'est ferme, vous fixez le cadre, dimanche à, j'avais dit quoi, 18h ? Donc dimanche à 18h, et vous ne répondez pas aux reproches, vous ne vous excusez pas et vous ne vous justifiez pas. Il n'y a pas de prise, en fin de compte. Autre méthode est donc de poser une limite. C'est-à-dire que vous énoncez la limite une fois, sur les faits, sans vous justifier. Et quand la limite, si la limite est franchie, mais oui, quand la limite sera franchie, vous appliquez la conséquence. Par exemple, vous lui dites au téléphone, vous savez qu'elle a une tendance à vous gueuler dessus à un moment donné. Donc au téléphone, vous lui dites une seule fois, que si elle élève la voix, je te préviens, si tu élèves la voix, j'aime pas que tu élèves la voix, si tu élèves la voix, je mets fin à l'appel. Et si elle élève la voix, vous raccrochez. Vous répétez pas la menace, vous ne négociez pas, vous n'avertissez pas encore une fois, elle est pas totalement conne. Hein. Elle a un certain âge, elle est votre mère, donc elle est plus âgée que vous. C'est pas à vous de lui expliquer ce genre de choses et elle a pas besoin que vous lui répétiez plusieurs fois. Elle est pas débile. Et croyez-moi, elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Donc, elle élève la voix, elle a été avertie, elle élève la voix, vous raccrochez. C'est tout. Et donc, vous avez le no contact, hein, le contact limité, le contact zéro, le zéro contact. Ça, ça reste une option parmi tant d'autres. Alors, il y en a qui vont fonctionner en contact limité, en contact cadré. Moment choisi, durée choisie, sujet choisi à l'avance. D'autres, ben non, il va falloir que ce soit zéro contact. Donc, dans ce cas-là, pourquoi pas. Mais toutes ces méthodes que je viens de vous dire, ça revient au même geste. Vous cessez de fournir de la matière. Vous cessez d'être un approvisionnement. Moins de réactions exposées, moins d'émotions visibles, et donc moins de prise pour votre mail. Très souvent, il se peut que vous ayez besoin d'un suivi thérapeutique avec un psy ou une psy qui connaît ce genre de problématique et qui peut vous soutenir pour vous aider à déculpabiliser, pour vous aider à surmonter certaines de ces situations, parce que ben, des fois, les mots vont vous manquer et vous pouvez avoir besoin d'un professionnel. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un qui pourra vous aider et vous soutenir dans ce genre de situation. Voilà. Vous pouvez donc voir ce fameux webinaire dont je vous ai parlé ici, si vous avez aimé.
Cyril Malka. Cyril Malka. Le psy chez vous. Cyril Malka. Cyril Malka. Le psy chez vous.